Bienvenue dans la bibliothèque de Babel. Avant de commencer, j'aimerais apporter une légère précision sur le texte de Borges. La nouvelle La bibliothèque de Babel que vous avez pu entendre dans la première émission est tirée d'un recueil qui s'intitule Fiction. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un texte écrit par Jean Giono qui s'intitule Les vraies richesses, et qui donc a été publié en 1937. Alors nous n'allons pas lire tout le texte, puisque ça fait quand même plusieurs centaines de pages, mais un extrait. Et l'extrait en fait que je vais vous lire a été utilisé l'année dernière pour le concours d'entrée de Centrale Supélec pour l'épreuve de français. Et cette épreuve de français consiste en un résumé de texte et une dissertation. Et ils avaient donc choisi ce texte de Giono. Au passage, je précise quand même que le résumé ne doit pas dépasser 200 mots. Autrement dit, il fallait massacrer littéralement le beau texte que je vais vous lire. On a dû te dire qu'il fallait réussir dans la vie. Moi, je te dis qu'il faut vivre. C'est la plus grande réussite du monde. On t'a dit, avec ce que tu sais, tu gagneras de l'argent. Moi, je te dis, avec ce que tu sais, tu gagneras des joies. C'est beaucoup mieux. Tout le monde se rue sur l'argent. Il n'y a plus de place au tas des batailleurs. De temps en temps, un d'eux sort de la mêlée, blême, titubant, sentant déjà le cadavre, le regard pareil à la froide clarté de la lune, les mains pleines d'or, mais n'ayant plus force et qualité pour vivre. Et la vie le rejette. Du côté des joies, nul ne se presse. Elles sont libres dans le monde. Seuls à mener leur jeu féerique sur l'asphodèle et le serpolet des clairières solitaires. Ne crois pas que l'habitant des hautes terres y soit insensible. Il les connaît, les saisit parfois, danse avec elles. Mais la vérité est que certaines de ces joies, plus tendres que les brumes du matin, te sont réservées à toi, en plus des autres. Elles veulent un esprit plus averti, des grâces de pensée qui te sont coutumières. Tu es là à te désespérer quand tu es le mieux armé de tous, quand tu as non seulement la science, mais encore la jeunesse qui la corrige. Rien n'est plus agréable aux dieux que l'adolescent qui sort des grandes écoles, la tête couverte de lauriers, mais qui se dirige vers la forge de son père, l'atelier de l'artisan, ou les champs dans lesquels la charrue est restée en de vieilles mains. Au lieu de s'asseoir à la chaire, il forge tout le jour des fers pour les chevaux. Il construit des tables, des armoires, des crédences et des grands pétrins, avec des bois dont l'odeur seule donne au cœur la quadruple force des chars de course. Il taille et assemble le cuir pour les bottes du flotteur de radeau et le soulier ferré du roulier. L'homme est assis à côté de lui, le regarde faire, lui parle, le respecte dans son travail. Il laboure et sème et fauche et foule. Déjà, il est sensible à son libre travail, à la matière qu'il façonne, à l'utilité humaine qu'il a. Sa richesse ne dépend pas de son salaire, mais de ses joies. Il en trouve dans le fer, dans le bois, dans le cuir, dans le blé. Il en trouve dans la possession de lui-même, dans l'obéissance à sa nature d'homme. Sa science le rend clair et frémissant. Il la sent qui, chaque jour, s'affine et se complète dans l'exercice de ce travail manuel où toutes les lois de l'univers se mêlent sous ses mains. C'est alors, assis près de l'âtre, que tu ne pourras plus lui contester la compréhension des rythmes, quand il tracera peu à peu la jarre avec des tourillons de sagne. Il est beau de savoir que le forgeron est un agrégé de lettres. Il a un magnifique poème dans son atelier. Il est beau de savoir que le laboureur a des grades très élevés en mathématiques. La loi des nombres est dans les montagnes, dans les forêts, le ciel de jour et le ciel de nuit. Direz-vous qu'il a réussi, celui qui, s'étant gardé libre, amoureux de son travail, entouré d'armes et d'ailes magiques, aura fait en pleine santé des enfants solides avec une femme robuste et passé sa vie dans la paix des champs. Ne fais pas métier de la science, elle est seulement une noblesse intérieure. Ne crois pas que, la possédant, tu te déconsidères en travaillant les champs ou la matière. Je n'ai pas maudit la dureté des temps quand j'ai rencontré aux carrières du col de Luce cet étudiant en philosophie qui travaillait avec les ouvriers. J'ai fait 10 fois le voyage pour aller passer des soirées avec lui. On ne pouvait rien lui souhaiter. Il avait une poitrine de héros. Une force joyeuse le portait avec élégance. Il faisait des mines dans le silex au sommet de cette épine rocheuse qui soutient la montagne de France. Sous lui vivaient la forêt et ses clairières, puis les champs et les villages. Il avait gardé ses livres. Il les lisait. Il s'en allait au bord du torrent avec Platon, Hésiode ou un petit Virgile. Il s'arrêtait parfois de lire pour pêcher des truites à la main. Donc ici, il y a une interruption dans le texte. Et on reprend un peu plus loin. Ne crois pas que ce soit tout ce que je désire pour toi. Je te veux plus beau encore. Tu ne pourras rien posséder sans la pauvreté, mais tu n'as pas le droit d'être pauvre tant qu'on paiera ton travail avec des feuilles sèches. Cette société bâtie sur l'argent, il te faut la détruire avant d'être heureux. Posséder est bien la gloire de l'homme quand ce qu'il possède en vaut la peine. Ce qu'on te propose ne vaut pas la peine. Tu sens bien que notre époque est énervée et tremblante. Trop d'hommes sont privés des joies naturelles. Tous. Car le plus riche ne s'est pas enrichi. Il est toujours un pauvre homme. Je ne te dis pas de te sacrifier pour les générations futures. Ce sont des mots qu'on emploie pour tromper les générations présentes. Je te dis, fais ta propre joie. Vis naturellement. Et puisque dans la société moderne, on le considère comme une folie, installe la société qui le trouvera logique. Il ne faut plus qu'une petite poussée de tes mains pour qu'elle soit. La féerie, je n'ai pas cessé de te la raconter. Tu lui reproches d'être féerique, si tu la voyais. Ce dont on te prive, c'est de vent, de pluie, de neige, de soleil, de montagne, de fleuves et de forêts. Les vraies richesses, ta patrie. On t'a donné à la place une patrie économique, un monstre qui exige périodiquement le sacrifice de jeunes hommes. Tu songes, avec terreur, à ces temps de l'ancien Mexique, où l'on vendangeait tous les mardis des grappes d'hommes sur l'autel de Tezcatlipoca. La patrie qu'on t'a inventée a plus d'appétit encore. Tu es aussi loin d'elle que de ce jaguar à torse de fournaise. Rien ne t'attache humainement à ce faisceau de lois inhumaines et cruelles. Rien n'a été fait pour tes pieds, pour tes bras, pour ton cœur, pour tes lèvres. Ton intelligence est incapable de te défendre contre le monstre. Il bave une salive intelligente, un alcool qui te fait accepter aveuglément d'être jeté dans le brasier de son ventre. Les morts sont morts. Dès qu'ils ont passé la porte, ils ne peuvent plus servir qu'à des fins naturelles, corps et âme. Ils ne sont jamais utiles à la patrie. Mais l'abolition de ta vie sert à ceux qui manœuvrent l'idole. C'est la dénaturation des hommes, même principe que pour le blé. Ce dont on te prive, c'est de vent, de pluie, de neige, de soleil, de montagne, de fleuves et de forêts, les vraies richesses de l'homme. Tout a été fait pour toi. Au fond de tes plus obscures veines, tu as été fait pour tout. Quand la mort arrivera, ne t'inquiète pas. C'est la continuation logique. Tâche seulement d'être alors le plus riche possible. À ce moment-là, ce que tu es devient.